VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Emmanuel Macron entame ce mardi une visite de 2 jours au Nigeria qui le conduira d'une salle de concert hermétique de Lagos à une rencontre avec 2 jeunes entrepreneurs, 2 des piliers de la nouvelle relation que Paris souhaite nouer avec l'Afrique. Le chef de l'État français va inaugurer la nouvelle alliance française de la ville de Lagos, appelée à devenir un lieu de rayonnement culturel de la francophonie au Nigeria, et il va s'entretenir notamment avec le prix Nobel de littérature Wole Soyinka. Une rencontre entre Emmanuel Macron et les jeunes entrepreneurs nigériens est prévue demain, mercredi, et ce sera le matin. Le sommet de l'Union africaine s'est achevé hier avec de bonnes nouvelles sur le front de l'intégration économique. 5 nouveaux pays ont signé dimanche l'accord sur la zone de libre-échange, ZLEC. Les dirigeants de l'Union africaine ont aussi fait bloc autour de la candidature du Rwanda pour diriger la francophonie. Raïssa Girondin.
L'Union africaine a demandé à tous les membres de la francophonie de soutenir la candidature du Rwanda. Un soutien collectif à la candidature de Louise Mushikiwabo, la chef de la diplomatie rwandaise, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, a donc été prise à Nouakchott. Avant l'ouverture du sommet, le président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, avait dit qu'il tenterait de s'assurer du soutien de ses homologues. Paris appuie déjà cette démarche qui permettrait de ramener la direction de l'OIF en Afrique. La francophonie s'est invitée à ce sommet après 4 ans de mandat de la Canadienne Michaëlle Jean, candidate à sa propre succession. Le prochain sommet de la francophonie devant désigner le futur chef de l'OIF se réunira les 11 et 12 octobre prochains en Arménie.
En République centrafricaine, polémique autour de l'initiative de l'Union africaine pour la paix, plusieurs organisations de la société civile et des partis politiques sont hostiles à ce projet, prévoyant un dialogue entre le pouvoir en place et les groupes armés. Sur place à Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Pour une sortie de crise en Centrafrique, l'Union africaine a mis en place un panel de facilitateurs pour échanger avec les groupes armés et le pouvoir. Selon la feuille de route, un dialogue devait être organisé uniquement entre les 2 parties. Les organisations qui se sont montrées les plus hostiles à cette initiative, ce sont celles de défense des droits de l'homme. Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Nous avons réagi négativement à cette initiative. Lorsque le peuple n'est pas d'accord avec une démarche que vous avez engagée, la meilleure façon, c'est de se ressaisir, de s'arrêter et de demander l'avis du peuple. Or, malheureusement, nous avons constaté que concernant ce dialogue, vous faites aujourd'hui un sondage en République centrafricaine, vous allez voir que le peuple, toute entité confondue, ne veut pas de ce dialogue. Il y a des membres du gouvernement qui ne sont pas d'accord avec ce dialogue. Il y a des membres du Parlement qui ne sont pas d'accord avec ce dialogue. Il y a les membres de la société civile qui ne sont pas d'accord avec ce dialogue.
Parmi les membres de la société civile qui ne sont pas d'accord avec ce dialogue, Gervais Lakosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile centrafricaine.
De prime abord, ce n'est pas une solution, à condition qu'on centrafricanise suffisamment la démarche. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ainsi, si cette conférence-là ne s'adapte pas à ce que nous souhaitons, nous allons prendre les dispositions citoyennes pour que cette conférence ne se tienne jamais.
Dans le milieu politique, l'opposition démocratique donne un autre son de cloche. Les 3 principaux partis qui sont l'URCA de Anissé Georges Dologuélé, le RPR de Alexandre Ferdinand Guindé et le parti de l'avocat Crépin Bolingouba sont favorables à cette initiative. Leur seule condition, l'intégration de toutes les forces vives de la nation dans les débats. Alexandre Ferdinand Guindé.
Choses. Nous soutenons la feuille de route de l'Union africaine, mais nous disons que ce dialogue-là doit être inclusif. L'expérience a toujours prouvé que les dialogues avec un format gouvernement et groupes armés ont toujours donné des résultats négatifs.
En Centrafrique, de nombreuses personnes dénoncent un nouveau partage de gâteaux avec les bourreaux du peuple. Pour le pouvoir, il n'en est pas le cas. Évariste Ndamana, directeur de cabinet au secrétariat général du gouvernement.
Il est hors de question que des questions, par exemple, d'impunité, de partage de pouvoir, soit évoqué. Donc c'est pour dire que les objectifs visés par ce dialogue, c'est arriver à un accord qui puisse permettre la mise en œuvre effective des recommandations issues du forum de Bangui, mais dans le strict respect de la constitution de notre pays.
Jusqu'aujourd'hui, aucune date n'est encore officiellement fixée pour la tenue de ce dialogue, dit-on à l'étranger. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Cameroun, les députés ont adopté hier publié la prorogation d'un an de leur mandat demandé par le président Paul Biya. Selon lui, tenir les élections présidentielles, législatives et municipales, sensiblement aux mêmes périodes, rend difficile leur organisation matérielle. La présidentielle est prévue en principe en octobre, mais elle n'a pas encore été convoquée par les autorités camerounaises. En Côte d'Ivoire, les opérations de révision des listes électorales qui ont enregistré moins d'un demi-million de nouveaux électeurs étaient entachées d'irrégularités, a dénoncé lundi à Abidjan un avocat représentant des candidats indépendants et de l'opposition. Morgan Guiriek.
Dans plusieurs villes, des personnes se sont fait inscrire sur des listes en dehors de leur zone territoriale de vote, a accusé Maître Clavernerie. Sans préciser le nombre de cas litigieux, il ajoute qu'il faut clarifier toutes ces questions pour que des contestations ne puissent encore diviser les Ivoiriens lors des élections municipales et régionales couplées cette année et pour la présidentielle de 2020. Des candidats avaient déjà dénoncé des fraudes au plateau, le quartier des affaires d'Abidjan. La commission électorale indépendante a assuré enquêter sur ces allégations. L'opération de révision des listes électorales, qui s'est déroulée du 18 au 24 juin, a abouti à l'enregistrement de plus de 428 000 personnes, qui s'ajoutent à plus de 6 300 déjà sur les listes. La plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté avait appelé les Ivoiriens à ne pas s'inscrire, contestant la légitimité de la CEI, qu'elle juge déséquilibrée en faveur du pouvoir.
Un nouveau naufrage au large des côtes libyennes a fait au moins 63 disparus dans un nouveau drame de l'immigration clandestine en Méditerranée qui porte à près de 170 le nombre de disparus depuis vendredi. 41 migrants ont pu être sauvés parce qu'ils portaient des gilets de sauvetage selon les autorités. Les rescapés ont indiqué que 104 personnes étaient à bord de l'embarcation qui a coulé au large de Garabouli à quelques 50 km à l'est de Tripoli.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Glencore, le géant suisse du négoce des matières premières, a annoncé aujourd'hui qu'il était assigné par le département américain de la justice dans le cadre d'une enquête pour corruption liée à ses activités au Nigeria, au Venezuela et en République démocratique du Congo. Glencore a reçu une assignation datée d'hier, le 2 juillet, du département américain de la justice a produit des documents et autres enregistrements en application de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger et des règles de blanchiment d'argent, a indiqué le groupe dans un communiqué. Et le département américain du commerce a recommandé lundi de rejeter la demande présentée il y a 7 ans par China Mobile pour entrer sur le marché américain, invoquant des inquiétudes pour la sécurité nationale. Cette prise de position marque une nouvelle escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Les droits de douane américains infligés à des produits chinois représentant des milliards de dollars doivent entrer en application vendredi et la Chine a promis de riposter. Les 12 enfants et leur entraîneur de foot, miraculeusement retrouvés vivants après avoir passé 9 jours sans vivre dans une grotte inondée du nord de la Thaïlande, devaient être remis en forme aujourd'hui avant une délicate évacuation en plongée. Les enfants âgés de 11 à 16 ans ont été découverts tard lundi avec leur entraîneur de 25 ans par des plongeurs britanniques émaciés, mais sains et saufs à plus de 4 km à l'intérieur de la galerie. Le groupe était perché sur un rebord situé loin dans les méandres de cette grotte, située elle-même à la frontière avec la Birmanie et le Laos, où ils ont été piégés le 23 juin par la montée des eaux. Plus de 50 personnes, dont des civils, ont été tuées en 2 jours de bombardement au sud de la ville de Hodeida, dans l'ouest du Yémen, dans la ville cible d'une offensive des forces pro-gouvernementales. Les rebelles houthis ont creusé des dizaines de tranchées. Ils ont également établi des positions défensives en barrant les routes avec des blocs en béton et des conteneurs. Les rebelles ne cessent d'acheminer à la faveur de la baisse des combats autour de Hodeida des renforts, tout comme les forces pro-gouvernementales, selon des sources militaires. On termine avec du football, le mondial 2018. Colombie, Angleterre et Suède-Suisse, ce sont les deux derniers matchs des huitièmes de finale. Les rencontres se jouent environ au tour suivant, deux équipes peu habituées au sommet planétaire, mais il y aura de la matière quand même. Les vainqueurs de ces deux matchs s'affronteront en quart de finale et ce sera samedi. Jean-Roger Billon à ce micro, le prochain journal c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Henri Francisque. Merci de votre fidélité et rendez-vous tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.